des relations entre syndicalisme et service public est directement lié à trois questions. Premièrement, quels sont au fond les groupes, les classes sociales qui sont au cœur du compromis? Et on va voir que ça change entre la première, la deuxième et la troisième. Et du coup, ça compte pour la question en question. Quel est le type de politiques publiques qui sont menées? Et là aussi, ça change. Et troisième question, elles ne sont pas dans un ordre hiérarchique. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles se combinent toutes les trois. Et la troisième question, c'est quel est l'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs? Et là aussi, ça change dans les trois périodes. Alors, première période, je vais essayer d'aller vite sur les deux premières pour m'attarder sur la troisième, qui est quand même celle qui nous concerne le plus, qui est la plus récente. Et je pense que de voir ce qui s'est passé antérieurement nous ouvre pour des questions d'aujourd'hui aussi. Et inversement, des questions d'aujourd'hui qui nous éclairent pour mieux comprendre ce qui s'est passé précédemment. Première période, le compromis républicain. Alors, quelques idées fausses, mais j'imagine que vous ne les avez pas, vous, mais que d'autres pourraient les avoir. Le service public est défini dans les années 1900 par un certain nombre de juristes, dits de l'école du service public, au rang desquels on range Duguy, Orioux, des gens comme ça, l'école de Bordeaux, etc. Donc il y a quelqu'un d'Aquitaine ici qui va être intéressé, parce que c'est du 33 pur. Ça ne provient pas de courants anticapitalistes, ça ne provient pas de courants socialistes, ça ne provient pas de courants qui mettent en cause la propriété, mais qui, au fond, vont définir des services d'intérêt général, donc, qui représentent un besoin, et un besoin qui est perçu à l'époque comme étant évolutif de la société. Des besoins indispensables, donc des services d'intérêt général. Et vous savez que les trois principes qui sont définis à ce moment-là, c'est la continuité, on a parlé de la continuité, on a parlé un peu de l'égalité, égalité d'accès, avec l'unité, donc faire que, au fond, le service soit accessible à des tarifs inférieurs au coût de revient. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui paye la différence. Il n'y a pas de repas gratuit, etc. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... Donc qui va payer la différence? Puisque c'est pas au même, donc c'est pas la règle du marché. Et d'autre part, la mutabilité, c'est-à-dire le fait qu'on admet que les besoins sont évolutifs en fonction du progrès technique. C'est-à-dire quand on s'éclaire au gaz, après on peut s'éclairer à l'électricité, etc., etc. Donc ça peut évoluer. Ces trois principes sont totalement admis dans une société où la propriété demeure, au fond, protégée et valorisée. Mais pourquoi? Parce que ce sont des activités et des services qui, comme on l'a dit en partie à travers l'exposé de Jean-Marie, c'est que pour beaucoup, et notamment les entreprises de réseau, donc les services publics industriels et commerciaux, hein, les services publics administratifs, c'est un peu une autre question, encore que ce sont des services de réseau. Et dans un service de réseau, y compris des économistes libéraux, alors là, ce sont surtout des juristes qui ont mis en place ça, mais souvent, quand ils traitent d'économie, ils restent sur des positions économiques libérales, reconnaissent le monopole naturel. C'est-à-dire, un réseau de chemin de fer, c'est un gaspillage inutile de mettre plusieurs lignes de chemin de fer sur un même parcours, et donc, en réalité, le monopole naturel veut que même en logique libérale, il y ait effectivement une entreprise qui rationalise un peu les coûts. Et donc, ou alors sinon, si c'est une concurrence acharnée sur la... ça veut dire plusieurs compagnies sur les mêmes lignes, et dont une grande partie font faillite, parce que si véritablement c'est une concurrence par l'abaissement des tarifs, il y a un moment où, comme ce sont des infrastructures lourdes, eh bien, effectivement, la plupart disparaissent. Donc, c'était pas du tout contre l'économie libérale, c'était des républicains libéraux. D'autre part, ils n'envisageaient pas la plupart du temps que ces services publics soient assurés par des entreprises publiques. Mais la plupart du temps, ils ont plutôt justifié le système de la concession à des entreprises privées. Et d'autre part, ce sont la plupart du temps pas des entreprises d'État. Ce n'est pas l'État qui délègue le service public, la mission de service public, mais beaucoup plus les collectivités territoriales, et en l'occurrence les communes. Donc si on reprend l'apparition de ces services publics d'intérêt général, industriel et commerciaux, électricité, transport, transport urbain, transport régionaux, nationaux, etc., ce sont souvent donc des collectivités locales qui délèguent à des concessionnaires privés. Et il y a une justification de l'idée d'équilibre entre la collectivité publique qui impose un cahier des charges, en reprenant les principes, pas de coûts trop élevés pour que ce soit l'égalité, la continuité. Alors je signale que la continuité, c'est la continuité dans le temps, mais c'est aussi la continuité dans l'espace. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des transports pas trop loin, parce que pas dire à la porte de chacun, mais pas trop loin, assez raisonnablement répartis, etc., etc. Et la mutabilité, donc, il faut pouvoir moderniser. Donc ça veut dire des rapports compliqués, et quand je dis compliqués, c'est que je suis poli, parce que la plupart du temps, c'est des rapports extrêmement difficiles entre les collectivités territoriales qui délèguent les services publics et les entreprises privées. Pourquoi ? Parce qu'elles reprochent en permanence. Je ne sais pas, je prends les voitures à chevaux, les omnibus à Paris, entre la ville de Paris et la CGO, c'est en permanence des débats parce que la CGO ne veut pas moderniser et vous avez encore des voitures à chevaux jusqu'en 1913. Donc on est dans une situation où, si vous voulez, les profits sont totalement utilisés à autre chose dans l'immobilier et ne reviennent pas à l'usager, etc. Donc quand on veut, parce que de nouveau ce discours revient aujourd'hui, hein, d'un certain point de vue que c'était une bonne formule, c'est-à-dire que ça c'est des débats des années 1900-1910, mais on nous expliquait dans 1900-1910, c'est la meilleure combinaison, le public et le privé. Pourquoi ? Parce que le public fournit des contraintes pour que justement il y ait des principes d'application, et le privé fournit l'argent et la compétence. Donc on ne peut pas rêver mieux, hein, c'est une solution mixte, etc. Et vous avez toute l'expérience. J'ai un de mes collègues de l'université d'en face, qui s'appelle Sorbonne-Paris, ou Paris-Sorbonne, je ne sais plus, enfin qui n'est pas la nôtre, qui est celle d'en face, et qui disait, mais oui, mais je suis un débarrassant, hein, à Blois, qui disait, mais c'est la bonne formule, c'est public-privé, etc. Mais je dis, mais enfin, Dominique, il s'appelle Dominique, tout le monde avait le nom. Tu as tous les exemples possibles. C'est à chaque fois une catastrophe, hein, du point de vue contentieux. C'est-à-dire le nombre de procès, etc. Et on va voir que d'ailleurs cette histoire va se traduire par une accumulation de griefs qui va déboucher sur le passage à l'entreprise publique. Hein, c'est sur la base souvent de ces griefs. Alors c'est sur la base aussi de la faillite de la plupart de ces entreprises à cause de la guerre de 14 et à cause de la crise des années 30. C'est-à-dire qu'en général, les coûts vont augmenter alors que les tarifs vont être bloqués plus ou moins, etc. C'est des entreprises qui, en général, c'est pour nous. Donc on voit que c'est un modèle de société qui était un modèle de société du compromis républicain qui reposait sur quoi ? Je rappelle mes trois critères, hein, sur les classes moyennes, souvent indépendantes, soit des professions libérales, soit des indépendants, dont les moyens de progrès et de promotion étaient les libertés politiques, liberté de la presse, etc., l'école et la propriété. C'est la propriété qui rend libre, qui permet de se développer, etc., etc., etc. Donc ce n'est pas les salariés, qui sont d'ailleurs minoritaires dans la société. Ils ne voient pas qu'il y a beaucoup de paysans, d'exploitants, dépendants, etc., beaucoup de PME, etc., et que les salariés ne représentent qu'une fraction, en fait, minoritaire des actifs. Et d'autre part, alors le syndicalisme. Eh bien, le syndicalisme de la CGT de l'époque, Charles Damien et autres, le poids du syndicalisme révolutionnaire, c'est de rejeter ça, considérant que ce n'est pas par le service public qu'on arrivera à une émancipation, ce qui pose au cœur du problème la propriété, et non pas la gestion ou le compromis, etc. Alors il y a une partie du syndicalisme qui rentre dedans, qui va gonfler avec la guerre de 14, avec les années 20, donc une fraction réformiste, etc., qui voyait, en liaison souvent avec le socialisme municipal, le fait que les services publics, mais souvent par des régimes, par des entreprises publiques quand même, mais pas tellement par des entreprises privées, parce qu'ils avaient déjà quand même l'expérience des conflits que ça représentait, pourraient être des morceaux de socialisme, quoi. Et qu'on pourrait raccorder pour faire... Bon, c'est un débat dont vous avez les traces encore aujourd'hui, hein, mais qui montre bien que, disons que jusqu'à la guerre de 14, les syndicats ne se reconnaissent pas dans ces compromis-là. Pourquoi ? Parce que d'une part, ils pensent que certes, ça peut représenter une certaine forme de progrès, mais que d'autre part, c'est illusoire par rapport à une émancipation qu'ils attendent d'autre chose, où le syndicat doit au fond, non seulement défendre des intérêts matériels, mais proposer même et réaliser même une société nouvelle, hein, et qui passe par donc, la propriété collective. Donc, on est dans une situation de divorce, ou en tout cas, j'exagère un peu, mais en tout cas, d'histoire parallèle. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la deuxième période ? Oui, alors, classe sociale et classe moyenne, quelle politique publique légitimée ? Une politique publique, généralement, je reviens juste en arrière, quelle politique publique ? Une politique publique peu coûteuse. Pourquoi ? Parce que c'est en général ces classes moyennes qui refusent l'impôt, et notamment l'impôt sur le revenu. Une bataille de 40 ans, etc. Mais bataille de 40 ans pour toutes les lois sociales. Hein, la loi sur les retraites, 40 ans de débat. La loi sur même les accidents du travail, nombre d'années considérables. Freinage des parlementaires, freinage de ces classes moyennes qui veulent un État léger. Pourquoi ? Parce que c'est un État qui prélève peu, donc qui dépense peu. Donc on voit bien que ce sont des politiques publiques, sauf pour l'école. Parce que l'école, c'est le moyen d'émancipation, tel qu'elle est vue à ce moment-là. Et dernièrement, dernier point, quel équilibre entre les droits collectifs et les droits individuels ? Les droits individuels sont quand même fortement valorisés par le fait de l'indépendance économique. Alors, il y a quand même un tournant solidariste à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, il y a quand même l'idée que les éléments de la société sont plus ou moins solidaires. D'où quelques lois sociales, quand même. Mais il faut bien voir qu'en 1914, la France est très, très, très en retard par rapport à l'Allemagne, tout bismarckienne qu'elle est, même si Bismarck est mort en 1890, on le présente comme étant le promoteur de toutes ces lois de protection sociale des années 1880, ou l'Angleterre libérale, hein, de l'avant-14. Donc, on voit bien une société qui est fondée sur ce type très particulier de compromis et d'entorse reconnue comme telle, hein, comme nécessaire dans le capitalisme libéral. En deuxième période, je vais plus vite, je ne suis pas encore tout à fait hors du temps, hein, ça va. Donc, deuxième période qui va nous occuper, c'est la période donc, de l'apogée à la fois des services publics et de l'apogée du syndicalisme. Donc c'est l'épisode 36, 45, 44, 45. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de notre sujet ? Dans notre sujet, c'est le fait que la plupart des services publics, de concession de services publics, se sont trouvés financièrement en grande difficulté dans les années déjà de la guerre de 14, pour des raisons très évidentes de mobilisation de la population, la plupart des tarifs ont été autoritairement bloqués. Hein, bon, beaucoup d'entreprises donc, de transport notamment, mais aussi c'est le cas pour l'eau, le gaz, etc. Et donc les coûts ont augmenté, une inflation très importante pendant la guerre. Et parallèlement, donc, comme les recettes fondées sur les tarifs elles n'ont pas beaucoup bougé, ça veut dire que la plupart ont été redéfinies dans les années 20. C'est le cas des compagnies de chemin de fer, c'est le cas des compagnies de transport urbain, etc., etc., qui sont toujours des concessionnaires privés. Alors bon, ce n'est pas tout à fait le cas pour la surface, pour les bus qui deviennent une régie du département, etc. Mais on est encore dans des formules hybrides, mixtes. La crise des années 30 va vraiment, alors là, encore amplifier les difficultés financières de ces entreprises qui se trouvent en grand embarras. Et je rappelle que pour les compagnies de chemin de fer, c'est à l'appel des directions de ces compagnies privées que s'effectue la nationalisation. C'est pas une nationalisation offensive de Blum, c'est plus Blum, hein, c'est Chautan, c'est les radicaux, avec d'ailleurs des radicaux des deux côtés, puisqu'il y a à la fois Chautan du point de vue de la présidence du Conseil, Cueil comme ministre, et puis en face il y a René Maillard qui lui représente les compagnies, la Compagnie du Nord, parce qu'il était lui-même donc administrateur et lié donc à la Compagnie du Nord et à la banque, etc. Donc c'est les compagnies qui veulent se désengager des champs de fer et qui vont transformer en fait la dette qu'ils avaient accumulée à l'égard de l'État depuis les années 20, puisque l'État garantissait en fait donc les emprunts des compagnies privées de chemin de fer. Depuis l'origine, depuis les années 1840, en fait, il y avait une combinaison compliquée entre du capital public et du capital privé pour construire ces infrastructures lourdes, et les concessions attribuées aux compagnies de chemin de fer s'effectuaient avec toujours plus en fait de contraintes, mais toujours plus de défaillances du point de vue financier de la part des compagnies. Donc elles se désengagent et elles réclament quasiment la nationalisation et la transformation de la dette en capital qui est effective donc au 1er janvier 1938, donc avant la guerre. Et c'était encore 5 ou 6 compagnies différentes qui avaient des règlements différents, des statuts de personnel différents, etc. etc. C'est pareil pour les transports urbains, par exemple. C'est pendant la guerre que déjà est opérée sous Vichy la première fusion entre le bus et le métro, la compagnie du métropolitain, et la nationalisation qui est traîne et qui a lieu en 1948 après des débats importants et donc qui va voir la création de la RATP. Mais on sait bien aussi que c'est dans le programme du Conseil national de la résistance que s'opèrent les nationalisations, notamment de l'électricité, du gaz, qui vient s'ajouter donc au banque de dépôt, qui vient s'ajouter à un certain nombre d'entreprises. La plupart, ce sont, à part Renault, là c'est pour des faits de collaboration, c'est une nationalisation sanction. Les autres, c'est en fait une nationalisation qui est assez bien. Alors, bon, il y a la poussée de la résistance. Je rappelle que le programme du Conseil national de la résistance est un programme qui a été discuté, débattu dans la clandestinité, mais démocratiquement admis par toutes les composantes politiques, tous les partis, des communistes à la droite civilisée, patriote, on disait plutôt civilisé, c'était plutôt en Espagne, les démocrates chrétiens, les socialistes, les radicaux, les deux confédérations syndicales qui sont parties prenantes hein, de ce programme, comme d'ailleurs la CGT était partie prenante du programme du Front populaire. Donc là, c'est la CGT et la CFTC, et tous les mouvements de résistance. Donc, si vous voulez, l'équivalent des mouvements associatifs d'aujourd'hui, hein, qui est une association d'un type un peu particulier, mais qui, disons, représente un troisième pôle, compte tenu qu'à parmi les résistants, il y avait aussi des syndicalistes et des politiques, mais pas que. Hein, donc, unanimité. Ce qui veut dire que le passage à l'entreprise publique est accepté bien au-delà. C'est pas un programme que de la gauche. D'autre part, c'est pas un programme forcément étatique. Les nationalisations reprennent la définition de la CGT d'avant la scission de 1919, de ce qu'on appelait la nationalisation industrialisée. C'est-à-dire l'idée que la nationalisation ne devait pas être une étatisation, mais où devait y avoir une représentation tripartite des représentants de l'État, de la direction du personnel. Et donc, elle devait défendre, en fait, effectivement, l'intérêt à la fois du personnel et des usagers pour ces entreprises qui étaient nationalisées. Et donc, on voit une sorte de coïncidence entre beaucoup d'entreprises de services publics. Alors, tous les services publics administratifs, eux, restent évidemment, des administrations, hein, que ce soit la poste, la santé, l'éducation, etc. Mais là, c'est la plupart des services publics industriels et commerciaux qui deviennent des entreprises publiques, alors ce n'était pas le cas précédemment. Hein, c'est donc le cas pour l'électricité, le gaz, les chemins de fer, on l'a dit déjà avant-guerre, mais aussi beaucoup de transports urbains. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, il y a une contestation assez faible de ce passage, pour des raisons à la fois politiques, poussées de la résistance, poussées d'une volonté d'étendre la démocratie à la démocratie économique et sociale, donc parallèlement dans le programme de la résistance, la création des comités d'entreprise, de la sécurité sociale, du plan, donc, et de nouvelles garanties dans la fonction publique, hein, donc du statut de 46. Donc on voit bien parallèlement pousser, mais aussi le fait que beaucoup de grands ingénieurs, au fond, se rallient à cette idée d'une entreprise monopole naturel, et des économistes ou des hauts fonctionnaires libéraux considèrent que, à la place des 1100 entreprises d'électricité, une entreprise interconnectée, alors que l'interconnexion était déjà en route d'ailleurs avant-guerre, ça est une économie d'échelle, c'est une rationalisation, c'est une manière aussi, hein, pour une entreprise de réseau, hein, on l'a dit, plus il y a un espace grand, plus il y a d'abonnés, plus il y a d'usagers, et plus l'entreprise elle-même a de sens et, au fond, a de légitimité et d'utilité. Donc on voit bien le ralliement qui se retrouve d'ailleurs dans une partie de la direction d'EDF. Alors, que dire sur cette période ? Le syndicalisme a été partie prenante, déjà à travers le programme de la CNR, du CNR, d'autre part à travers les votes qui sont intervenus dans les premières assemblées constituantes de la 4e République, par le fait que certains ministres, y compris de la production industrielle, comme Marcel Paul, sont eux-mêmes des dirigeants syndicalistes, donc ils ont été des acteurs, des soutiens, et que d'autre part, dans ces entreprises nationales, vous savez, de services publics, ils ont obtenu une place importante pour les syndicats, ne serait-ce qu'à travers la présence de grands comités d'entreprise. Et au AETF, le comité d'entreprise a obtenu une sorte de deal entre le 1% du chiffre d'affaires contre le 1% pour l'indemnisation des anciens actionnaires, etc. Mais au-delà de ça, c'est l'idée que ça représenterait une des bases multiples du syndicalisme. C'est quand même, bon, j'ai employé le terme peut-être abusivement, mais c'est quand même une conversion de tout un courant de culture politique, syndicaliste révolutionnaire, communiste, bon, le syndicalisme, disons, anticapitaliste radical, qui veut pousser le plus loin la transformation sociale, de ralliement à quelque chose qui n'était pas du tout familier. Et je vous rappelle que jusqu'en 1937, la CGTU ou les anciens unitaires dans la CGT, les communistes, étaient hostiles aux nationalisations. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais on peut débattre si vous voulez. Et donc c'est quand même un changement de position. De même d'ailleurs que les communistes ou la CGT, dans sa version unitaire, étaient hostiles à la sécurité sociale. Hein, où la protection sociale était vue avec suspicion, hein, sinon avec hostilité. Il paraît qu'elle n'était pas complètement hostile, me dit mon voisin, dans un temps récent. Mais bon, elle était quand même très réservée. Et là, non, pourquoi ? Parce que ça change. C'est-à-dire que, mais on est dans quelle période ? Dans la période où la CGT a 3 millions d'adhérents, où il y a une CGT unifiée, où elle a pesé dans le programme de la résistance. Et où les syndicats, quelle classe sociale est au cœur du nouveau compromis social, de l'État social, ce sont les salariés et notamment les ouvriers. Je rappelle que la sécurité sociale, en 1946, elle est appliquée, elle est mise en œuvre pour les seuls salariés dans un premier temps. Hein. Et donc, c'est une poussée en avant du rôle reconnu de la classe ouvrière et des salariés dans la résistance, dans la reconstruction et dans le poids nécessaire d'une reconstruction nationale qui doit, au fond, permettre de retrouver aussi l'indépendance de la France, qui a été occupée pendant 4 ans. Donc on a bien un glissement aussi dans la classe sociale qui doit être la classe au cœur du projet. De la même manière, les types de politiques publiques changent, c'est-à-dire c'est des politiques volontaires, de plein emploi, explicites. Ce n'est pas les politiques libérales de la Troisième République. Il s'agit de rompre avec la Troisième République. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, les résistants ont quand même réussi ce tour de force de disqualifier l'État de Vichy, mais de requalifier un État plus démocratique. Hein, ce n'était pas anti-étatique, alors qu'il y avait tout un courant anti-étatique dans le syndicalisme, et qui, au fond, va accepter. Et ça, ça remonte à 36. On a dit avec Daniel Tartakovsky qu'au fond, 36-44 avait permis de combiner à l'intérieur du syndicalisme révolutionnaire cette double culture, une culture de mobilisation qui demeure. Il y a la mobilisation à travers la résistance, la libération, et de même qu'en 36, il y avait les grèves, mais aussi quand même l'acceptation d'une certaine culture de régulation, c'est-à-dire accepter qu'il y ait un certain nombre de formes d'intervention de l'État, évidemment dans une circonstance où le syndicalisme a des positions fortes et peut peser hein, sur le débat général. Et d'autre part, des politiques publiques qui sont des politiques publiques volontaires d'intervention dans le sens du développement économique pour tout le monde. Donc aussi des grands projets qui accompagnent souvent les entreprises publiques qui vont être au cœur de la grande croissance. Hein, rappelons que la SNCF, l'EDF, les transports en général, l'énergie et ajouter à ça l'acier qui lui est resté privé vont servir un peu de moteur de la croissance de ces années qu'on appelle parfois glorieuses, qui ne veut rien dire, mais bon, disons de grande croissance. Donc on est là, on voit bien dans un moment qui va être, au fond, un moment, ça ne veut pas dire que tout était bon et que ça présente toute une série d'inconvénients, de rigidité, sans doute, mais qui, au fond, voit se rejoindre le syndicalisme et la question du service public. Même si, par ailleurs, dans ces années-là, au fond, les positions importantes des syndicats ne sont pas forcément que dans les services publics. Je rappelle qu'en 1936, c'est le privé hein, qui a fait grève, c'est pas les services publics. Hein. Et donc on voit bien que la tendance du syndicalisme a plutôt été, avec les nouvelles adhésions en 36-37, mais c'est compliqué d'aller voir, parce que là-dessus il y a eu la répression, il y a eu la division de nouveau en 39, donc, et puis de nouveaux adhérents, donc c'est les mêmes. Mais c'est vrai que la tendance du centre de gravité, c'est plutôt d'aller vers de la fonction publique, vers le privé. Mais dans la diversité syndicale qui apparaît après la guerre froide, quand se crée FO, quand se développe la CFTC et qu'elle-même éclate avec la CFDT, on voit bien que là, les équilibres ne sont pas forcément les mêmes entre fonction publique, service public et secteur privé. Dernier point dans cette deuxième période, je vérifie que je déborde pas trop, c'est que mon troisième critère, l'équilibre entre droit collectif et individuel, je pense que, c'est une question qu'avait posée David, et je le remercie là-dessus, c'est que, et ça m'a éclairé sur pas mal de choses, c'est que dans ces années-là, 50, 60, 70, 68 a commencé à introduire un clivage. Hein. Mais jusqu'en 68, au fond, la plupart des droits individuels sont assez perçus à l'intérieur du syndicalisme, et même dans la société française, au-delà des syndiqués comme étant peu dissociables des droits collectifs. C'est-à-dire les libertés individuelles sont quand même assez largement conçues comme étant dépendantes, tributaires, vous voyez ce que vous voulez, objectif, des libertés collectives, des droits collectifs garantis et qui ont été étendus largement en 1945-1946. Et donc, au fond, il va falloir attendre les années 70-80 pour qu'il y ait certains courants à l'intérieur même du syndicalisme, on sait très bien, la CFDT en 68, un certain nombre d'autres, qui vont commencer à dire que oui, mais les droits individuels peuvent être distincts dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, même dire qu'ils sont antagonistes avec des droits collectifs. Et je pense que là, ça va bien au-delà de la question du service public, mais ça la rejoint. Alors, troisième période. On arrive donc dans une période où là, se délite un peu, et au fond, les positions syndicales qu'on a vues dans cette période clé des années 50-60, et la période suivante, donc à partir des années 80, disons, hein, et a fortiori dans les années 90-2000. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais vous voyez bien que ce qui a rendu possible aussi cette période des années 50-60, c'est d'abord la forte croissance. C'est quand même beaucoup plus facile, vous vous rendez bien compte, hein, de lutter quand il y a 4 ou 5% de croissance et qu'on obtient un certain nombre de choses qu'on obtient plus difficilement quand il y a moins de croissance ou plus de croissance pour tout. La deuxième condition de possibilité, c'est la relative fermeture de l'économie dans les années 50-60, malgré les débuts, mais les débuts seulement, du marché commun. Pourquoi ? Parce que ces monopoles, donc monopoles naturels et monopoles, au fond, pour ces services publics industriels et commerciaux notamment, ne sont pas contestés, ne sont pas mis en cause. Donc par une ouverture des frontières. Et donc ça a des conséquences. D'autre part, les politiques publiques peuvent s'appliquer beaucoup plus, les politiques notamment de relance ou autres. Et quand il y a des difficultés, il y a quand même une variable d'ajustement qui va disparaître après, qui est la monnaie. C'est-à-dire on dévalue. Si jamais il y a des problèmes de dépréciation de la monnaie, ou si jamais il y a des problèmes budgétaire un peu trop élevé qui menace. Donc on peut dévaluer ce qui n'est pas une catastrophe nationale. Ce qui est parfois présenté comme une faillite et qui en fait est, bon, est un ajustement, mais qui porte du coup sur la monnaie et qui ne va pas porter, comme dans la période suivante, sur les salaires ou sur les retraites. Comme on va le voir. Donc les choses changent à partir des années 80, sous la poussée, vous le savez très bien, de trois facteurs qui vont se combiner. D'une part, l'ouverture, et plus que l'ouverture, la mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a non seulement une circulation, une mobilité, mais une concurrence à la fois pour les capitaux, les marchandises et les hommes. Deuxièmement, il y a une nouvelle étape de la production industrielle, donc la troisième industrialisation, si vous voulez. Un des facteurs de la croissance des années 50-60 a disparu, c'était le véritable rattrapage qu'effectuait l'économie française par rapport à sa stagnation des années 30-45. Quand vous rattrapez, vous allez beaucoup plus vite, et quand vous rattrapez sur des secteurs connus, puisqu'au fond, on rattrapait sur des technologies américaines ou européennes hein, qui avaient été sous-valorisées dans les années précédentes. Donc on rattrape, mais dans un contexte, au fond, de cheminement connu. Hein, où on connaît les technologies, on sait celles qui vont s'appliquer, alors qu'à partir des années 80-90, on entre dans une troisième phase dont on ne sait pas, effectivement, quels sont les secteurs porteurs pour la croissance, qui, d'autre part, faiblit. Et puis le troisième facteur qui est concomitant, c'est, pour ce qui nous concerne, ajouter, bon, alors la mondialisation prend une forme accrue dans le cas de la France à cause de la construction européenne. Puisqu'à partir des années 80, fin des années 80, il est question non seulement d'ouvrir les marchés de capitaux, la fin du contrôle des changes, mais aussi la libéralisation financière, la dérégulation, peu à peu, de toute une série d'activités, mais aussi la construction d'une étape supplémentaire de l'Union européenne avec l'acte unique, hein, donc à partir de 86-87, et surtout la monnaie unique, qui veut dire la perte de souveraineté, et à partir de ce moment-là, cette variable d'ajustement qui servait éventuellement à faire face aux aléas de la conjoncture n'existe plus. Et donc on voit bien que dans le monde des années 90-2000, les variables d'ajustement deviennent les salaires. C'est-à-dire ce que les économistes standards appellent de façon pudique la dévaluation interne. La dévaluation interne, ça veut dire la baisse des salaires. Mais c'est plus chic de le dire comme ça. Et donc, c'est les salaires et les salariés qui vont, au fond, être l'élément d'ajustement indépendamment des droits qu'ils peuvent obtenir, hein, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire les droits fondamentaux par rapport à des principes de liberté économique qui sont mis sur le même plan et même qui sont maintenant dépendants de ces problèmes de liberté économique. Donc, sous la poussée de ces trois facteurs, on voit combien et le syndicalisme est touché et les services publics, chacun dans leur domaine, et donc les liens aussi entre les deux. Alors, le syndicalisme est touché par quoi ? Par le chômage de masse, par la mobilité, par la disparition de toute une série d'activités, de compétences, de technologies qui disparaissent, par le fait que les formes de production collective sont elles-mêmes démembrées, etc. Donc il y a un émiettement beaucoup plus grand, et donc on voit bien que ça n'est plus, au fond, les salariés qui constituent la base même de ce compromis nouveau qui est en voie de constitution, c'est des individus. On réutilise ou on légitime l'idée que les individus doivent céder eux-mêmes, etc. Alors, vous avez sous des dehors, je ne veux pas systématiquement ramener au XIXe siècle les propos d'aujourd'hui, mais quand même, on voit réapparaître l'idée que dans bien des domaines, eh bien, l'individu doit couvrir lui-même les risques qu'il court, hein, c'est-à-dire le fait que c'est à lui de s'assurer, ou c'est à lui, etc. Donc on voit bien comment, sous prétexte d'individualiser les besoins, qui sont effectivement liés au fait qu'il y a une diversification, qu'il y a une montée aussi des besoins, par une montée de, malgré tout, sur une génération, pouvoir d'achat, même si ça a été très fortement freiné dans les 30 dernières années, l'idée que les droits collectifs pèsent désormais moins que les droits individuels. Donc on est dans un autre type de compromis qui valorise de nouveau les travailleurs indépendants. Alors on ne retourne pas à la Troisième République, mais on voit bien certains modes de raisonnement qui, au fond, reprennent certains principes libéraux qu'on avait oubliés dans les années 50 ou 60 du fait de la faillite qu'avaient représenté les années 30 et, dans le cas de la France, les années 40-44, qui avaient ajouté le déshonneur patriotique à l'incompétence économique. Donc ça faisait beaucoup. Et ça avait disqualifié assez largement l'entreprise privée. Mais on voit bien qu'à partir des années 80, c'est cette valorisation-là. Alors, l'attitude des services, des syndicalistes, je termine là-dessus. L'attitude des syndicalistes va devenir donc beaucoup plus complexe à l'égard des services publics pour deux raisons. D'une part, parce que il y a, mais c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai ailleurs, il y a un affaiblissement, je l'ai dit, donc vous le savez très bien, du syndicalisme, du fait des transformations productives, des transformations sociale, de la montée du chômage, de la précarité et de toute une série de phénomènes de dispersion par rapport au fond à la lutte collective, mais aussi, pour une deuxième raison, c'est que les services publics servent de bras armés de la politique publique. Et que c'est les services publics qui montrent l'exemple dans les politiques qui sont menées à partir des années 80, et qui sont des politiques, paradoxalement, de flexibilité ou de diminution, on dit de modération salariale, pour être là aussi dans un langage technocratique. Et je donne qu'un seul exemple, mais qui est quand même significatif. Alors vous me direz que je suis de mauvaise foi, mais bon, c'est pas grave, parce que vous allez me corriger. Mais en 1982, je dis bien en 1982, et pas en 1983, en 1982, la décision de désindexer les salaires sur l'inflation est une décision fondamentale. C'est-à-dire que c'est le moment où justement les salaires deviennent une variable d'ajustement, où la politique visant le plein emploi qui avait été annoncée en 81 est abandonnée, et l'objectif majeur c'est l'inflation zéro. Et pour l'inflation zéro, l'un des objectifs majeurs c'est de désindexer les salaires. Et qui fait des désindexations, je suis désolé, mais c'est un grand syndicaliste, c'est Jacques Delors. Mais seul Jacques Delors pouvait faire en 92 ce qu'il avait mis en place en 1969. Il a été question ce matin de la politique contractuelle, hein, du premier gouvernement Chaban-Delmas, conseillé par Simon Aura et Jacques Delors. Et c'est Jacques Delors qui avait mis en place l'indexation des salaires, non seulement sur l'inflation, mais sur la progression même de l'économie, c'est-à-dire en fait de hausse du pouvoir d'achat. Il n'était pas question de maintien du pouvoir d'achat. Hein? Donc on aurait aujourd'hui quelqu'un qui s'exprime comme ça, je pense qu'on signerait des deux mains, même si on a été les uns et les autres à des postes différents pour ceux qui étaient déjà là, qui ne sont pas la totalité de l'Assemblée, même si on a beaucoup lutté contre la politique de Jacques Delors et de Chaban-Delmas, au fond, on ne serait pas mécontent de voir cette politique-là aujourd'hui. Et donc, seul Jacques Delors pouvait désindexer ce qu'il avait indexé précédemment. Or, c'est un syndicaliste et que le modèle va être pris dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette politique-là, elle est menée, et la fonction publique a comme fonction particulière de montrer l'exemple au patronat privé. Donc on peut comprendre que le syndicalisme, qui a toujours eu d'ailleurs cette attitude, est réservé quant à certaines politiques publiques de l'État patron. Dans certaines dérives un peu sectaires et un peu excessives, il était même écrit en pleine guerre froide, quand Hardyne venait dénoncer les biens communs, et bien de l'autre côté, on pouvait dire que l'État patron était parfois pire que le patronat privé, etc. Bon, je ne sais pas s'il était pire ou meilleur, qu'importe, en tout cas, il faisait pareil. Et là aussi, on voit bien, donc ça introduit des contradictions, et vous les connaissez bien, puisque maintenant, les politiques publiques sont des politiques, un auteur récent dit des politiques sadiques. Bon, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'est des politiques, effectivement, de compression des salaires, des retraites, du budget, puisqu'il s'agit de se conformer à des principes européens, donc d'inflation zéro. Alors, inflation pour les prix des biens et des services, inflation salariale, mais vous savez bien, pas d'inflation zéro pour les actifs financiers, qui ne sont pas comptés dans l'inflation. Okay. Alors pour que les actifs financiers fassent 15% de rendement sur investissement et que la croissance est de 1 ou 2%, il faut bien que les autres se servent la ceinture. Donc les politiques publiques servent à ça. Et du coup, les services publics sont au service de cette politique. Donc ça complique, hein, parce que s'il y a des principes positifs dans les services publics, ils peuvent être utilisés aussi de façon qui peut être difficile ou négatif. Comme j'ai dit que je terminais, je termine par quatre points qui sont, bon, so what, tout ça, pourquoi, hein, puisqu'il faut quand même proposer des choses. Au-delà de cette histoire, que vous devez connaître en plus bien, je propose quatre points de réflexion pour la suite, qui sont des points pas forcément faciles, mais qui justement pourront peut-être nous aider à y voir plus clair, et qui ont trait à la situation d'aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas dans un ordre hiérarchique, ils sont dans un ordre aléatoire, vous les prenez comme vous voulez. Premier point, la question des services publics est compliquée aujourd'hui, on le voit bien, par le fait qu'il y a de moins en moins de services publics chimiquement purs. C'est-à-dire beaucoup de services publics, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, administratifs ou industriels et commerciaux, combinent des entreprises publiques, mais une masse de sous-traitants, d'autres entreprises, avec des filiales, avec qui elles-mêmes sont publiques, semi-privées. Donc on est dans une nébuleuse où en fait la propriété, au fond, ne nous éclaire pas beaucoup sur les modes de fonctionnement et sur, au fond... Et donc, c'est aussi cette question-là qui est posée, hein, qui est posée pour y comprendre quelque chose sur l'évolution, quelle est la tendance C'est pas multiplier les cas d'espèces, c'est de voir la tendance, la dynamique. On se doute bien que la dynamique va aller vers de moins en moins de public, de plus. Mais dans quelles conditions, dans quelle répartition, quelle est la vision du travail, etc. etc. Première question. Deuxième question, on avait mis dans les papiers qui circulaient précédemment le rapport entre syndicalisme et les usagers. Hein, c'est-à-dire comment, au fond, on le voit bien par les luttes revendicatives, la défense du personnel, quand il est attaqué par la diminution des droits, n'est pas suffisante. Il fut un temps où elle l'était, peut-être. Hein. C'est-à-dire défendre le personnel, c'est défendre l'usager. C'est un passage rhétorique et un passage politique, de raisonnement politique, qui a pu passer un certain temps, qui pose peut-être problème aujourd'hui. En quoi la défense des personnels représente la défense des usagers? Et ça pose la question aussi des associations d'usagers, qui sont souvent des faux-nés des entreprises, des directions des entreprises publiques. Je connais un peu la Fédération nationale des usagers de transport. Bon, pourquoi ne pas, voilà, au fond, investir un peu plus ces associations qui, au fond, jouent un peu le rôle des directions, qui sont des associations souvent cache-sexe, je ne sais pas comment appeler ça, mais du coup qui... Et donc ça pose la question légitime que posait un petit peu, sans oser le dire, Jean-Marie ce matin, en disant, au fond, c'est pas mal que les usagers se mêlent, etc., mais sous quelle forme, etc. Donc on voit bien qu'il y a une question qui est due à la dégradation des résultats, hein, du fait de l'affaiblissement financier, etc. Troisième question, c'est effectivement qui finance. Alors ça a été posé en particulier par Jean-Marie, je le repose à ma manière, c'est-à-dire qu'on avait bien vu qu'à l'origine, j'ai posé la question puis j'ai laissé de côté la question, à l'origine on voit bien que le service public repose sur un tiers payant, c'est-à-dire le fait que les entreprises... On a bien dit, hein, on ne doit pas faire payer davantage les lignes de chemin de fer dans les montagnes et les lignes de chemin de fer dans la Beauce. Bon, alors que ça coûte beaucoup plus cher de faire des tunnels, des ponts, etc. etc. Mais l'usager ne doit pas voir la différence. Donc qui paye la différence? Alors l'une des réponses faciles, c'est de dire, bon, c'est le contribuable local, régional, national, avec quand même des distorsions importantes quand c'est le contribuable national qui paye pour la RATP. Effectivement, heureusement qu'il y a beaucoup de contribuables nationaux qui ne savent pas, mais c'est quand même un peu difficile à expliquer. On peut toujours dire qu'il a un cousin qui vient de province, mais enfin, et ça peut... Bon. Mais il y a d'autres solutions. L'idée, par exemple, qui est quand même une idée intéressante, le bénéficiaire indirect. Qui bénéficie des transports en région parisienne? Les employeurs. Alors, les employeurs ont accepté d'enthousiasme, je signale, ce qui est rare, de payer en 1971 pour le financement de la modernisation des infrastructures, donc des équipements, pas du fonctionnement, mais des équipements, des investissements du RER, du transport public, parce que, alors évidemment, vous me direz, c'est une contrepartie qu'on va retrouver dans les entreprises, c'est qu'ils pouvaient davantage sanctionner leur personnel s'ils arrivaient en retard. Parce que du coup, ils disaient maintenant on paye, donc on veut que vous arriviez à l'heure, puisque vous avez un mode de transport plus développé. Il n'empêche, mais on aurait pu envisager l'immobilier, on aurait pu envisager les grands magasins, on aurait pu... Qui est bénéficiaire indirect et qui pourrait payer? Je pense que c'est une des questions du problème du financement. C'est un débat public démocratique qui pose la question de qui profite au fond. Et il y a là aussi des passagers clandestins, hein, qui profitent. Bon, il y a cette anecdote, le directeur général, je ne vais pas m'attarder encore, hein, le directeur général des Galeries Lafayette, le président des Galeries Lafayette, qui vient voir le directeur général de la RATP dans les années 60 et qui dit, voilà, vos travaux là de l'erreur, ça me gêne, parce que du coup, alors vous faites des chantiers, moi les gens ne peuvent pas rentrer aux Galeries Lafayette parce que c'est à Robert. Alors il y a le directeur général qui dit, bon bah écoutez, d'accord, je vais vous dédommager. Et puis après, vous me donnez une partie de votre chiffre d'affaires pour le surplus de passagers que vous aurez grâce au RER. Donc vous voyez, on a comme ça des bribes de choses qui permettent de reposer la question sur des termes nouveaux. Ce n'est pas simplement l'usager ou le contribuable. Et on voit bien la résurgence qui a été signalée par le camarade Gironde, comme quoi les, maintenant les régions payent à peu près 75% hein, du prix de l'exploitation des TER. C'est le contribuable régional. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres formes de financement sur certaines catégories qui profitent plus que de répondre sur l'ensemble de la population ? Encore deux questions et c'est fini. Je ne sais pas laquelle, parce que je ne veux pas terminer. Je ne sais pas sur quel point, par laquelle commencer. Bon, tant pis. Troisième question, une question large. C'est la quatrième, pardon. Donc j'en ai cinq. J'en ai cinq. Alors, quatrième question, c'est l'individualisation des besoins. C'est-à-dire qu'il faut quand même accepter, c'est pour ça que je ne suis pas forcément nostalgique, hein. J'ai présenté la période faste un peu, mais il n'y a pas de regret non plus à avoir. On sait très bien que les besoins sont de moins en moins collectifs, de plus en plus individualisés, et pourtant, ils ne peuvent pas être totalement dissociés des droits collectifs. Et je pense que ça, c'est une des questions à poser. Parce qu'au nom de l'individualisation, on peut aussi totalement détruire les droits collectifs. Et ça, c'est le danger. Mais à nier complètement que la question existe, on est vulnérable, me semble-t-il. Donc ça veut dire quand même réfléchir à cette question. Puis alors, la dernière question, mais alors là, du coup, ça fait effet d'une provocation. Mais je ne le fais pas comme ça, je le fais vraiment pour discuter avec vous et pour avoir aussi vos réactions. C'est en quoi le service public est un facteur de cohésion ou un facteur de division à l'intérieur du mouvement syndical. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les services publics, il y a des gens à statut, des gens hors statut. Les entreprises qui ont du personnel entièrement statutaire deviennent quasiment non seulement minoritaires, mais très, très peu nombreuses. La RATP, de façon un peu exceptionnelle, hein. Pratiquement, je crois, 95% sont titulaires, mais c'est une des rares. Hein. Et d'autre part, comment dans une confédération syndicale, c'est valable ici, c'est valable ailleurs, cohabitent les fédérations de services publics, où elles-mêmes, il y a, je l'ai dit, du fait de la diversité des entreprises privées qui sont incluses là-dedans, et d'autre part, d'autres qui sont des fédérations dans le secteur privé. Voilà, excusez-moi pour avoir été un peu.